C'est ça, la vie. Contre attaque. Lui, cher à patron. Lui, cher à matraque.
Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, dans tous les sons et dans tous les sens.
En direct du studio 611, une émission réalisée par Aline Pénito, assistée de Juliette Medviel, avec à la technique aujourd'hui Hélène Langlois et Mathias Alléon.
Au sommaire cette semaine, une manif qui tourne en rond et des casse-têtes dans notre mémoire coloniale.
Et ben là en fait moi j'ai fait la manif et j'avais un peu l'impression d'être un hamster dans le tourniquet là, dans une cage.
Les crânes, ils sont au musée de l'homme, bien sûr. Entreposés dans des cartons et numérotés.
D'ailleurs, on a l'impression que ces derniers temps, il y a de plus en plus une criminalisation de la contestation.
Dites-moi monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Comme un bruit qui court, une fois encore, avant la trêve estivale, et qui se faufile cette semaine dans une manif un peu particulière. Une manif comme un tour de manège, un petit tour de piste, histoire de dire qu'on a défilé, une petite balade digestive autour de la mare au canard, comme après un repas un peu trop arrosé. Arrosé par les lacrymos, c'est vrai qu'aux dernières manifs, on a dégusté. Alors que jeudi dernier, il n'y avait pas l'ombre d'un masque noir d'un autonome qui dépassait. Avec un policier pour 10 manifestants, vous pensez que c'était bien encadré. Les mauvais esprits vous diront que manifester dans un vase clos, c'est comme le hamster qui court dans sa cage, sur place, mais en pensant avancer. Alors avec Antoine Chao, on va aller à la rencontre de ces manifestants, pas très contents, mais toujours aussi mobilisés. Parce que non, la lutte sociale, c'est pas une petite balade digestive. Et si on faisait un référendum, tiens, est-ce qu'elle passerait la loi travail ? Parce que les référendums, en ce moment, vous aurez remarqué, c'est d'actualité. En Grande-Bretagne, mais aussi en Écosse, en Catalogne et demain en Loire-Atlantique. Pour ou contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Mais là aussi, les mauvais esprits vous diront que les référendums, c'est bien beau, mais si c'est pour passer par la fenêtre quand le peuple a décidé de fermer la porte, c'est pas si démocratique. Et ça, c'est le fantôme du référendum de 2005 sur le traité de constitution européenne qui revient toujours nous hanter. Il y a des fantômes comme ça dont on ne se débarrasse pas aisément. Prenez les fantômes de la guerre d'Algérie par exemple. Régulièrement, ils reviennent. Comme ces derniers mois, avec la proclamation de l'état d'urgence, ou pas plus tard que cette semaine, quand Manuel Valls voulait interdire la manif et qu'on s'est rappelé que la dernière qui avait été interdite, c'était celle de Charonne contre la guerre d'Algérie, justement. Parce que des cadavres dans le placard de la colonisation de l'Algérie, il y en a plein. Et c'est l'un d'entre eux que Guy Vanctil va déterrer aujourd'hui à travers cette histoire étonnante de crânes de résistants entreposés dans les caves du musée de l'Homme. Des crânes de combattants qui menèrent la résistance au milieu du 19e siècle, une fois la conquête de l'Algérie achevée. Car cette résistance à la colonisation française n'a jamais vraiment cessé. Des crânes de héros, donc, que le peuple algérien aimerait bien pouvoir honorer. Une histoire qui revient donc hanter notre mémoire coloniale et qui nous rappelle que cette page brutale de notre histoire n'est pas encore tout à fait tournée. Comme un bruit qui court aujourd'hui dans une manif un peu particulière et au musée de l'Homme dans le casse-tête de notre mémoire coloniale, c'est jusqu'à 17h et c'est sur France Inter.
Antoine Chao,
Charlotte Berry,
Guy Vanctil. Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Alors à 13h30, les gens arrivent doucement. Il y a quelques camions, des organisations syndicales qui ont déjà pris place au pied de la colonne de la place de la Bastille. Le camion de l'Union solidaire Sud PTT.
Bonjour Antoine.
Avec plaisir. T'as fait le plein du camion ou le plein plutôt du ponche ?
Le plein et surtout, moi je lutte contre la déshydratation des militants pour qu'ils restent de bonne humeur et qu'ils soient en forme. Hello. Voilà. Un petit ponche, monsieur Patrick.
C'est d'être de bonne humeur quand on se rend en état de siège. Hein. C'est vraiment l'état de siège. Hein.
Ça a été compliqué d'arriver alors ?
Oui, moi j'ai pas de sac, ça va, mais tous les autres.
Non, ils se sont fait confisquer des drapeaux, c'est ça que j'ai pas compris. C'est hallucinant.
Il y a des drapeaux de confisqués.
Ah ouais, vraiment, il y en a eu de la CGT, puis là il y en a eu
de l'arrivée. T'as des contrôles depuis l'avenue de la République, t'imagines ? C'est-à-dire que les gens, ils ont plusieurs contrôles successifs.
C'est vraiment de l'entrave, quoi, pure. Hein. C'est ça qui est assez fabuleux.
Tu dois manifester que dans les conditions qu'on veut bien que tu manifestes.
Ils font un sans faute avec toutes les fautes. Hier matin, on a vraiment été étonnés qu'il y ait une interdiction. C'est incroyable, quoi, un truc de fou, quoi. Alors après, bon, on va voir sur aujourd'hui, Moi, je ne le prends pas comme un test. De toute manière, on manifestera le 28 et puis il y a une séquence qui continue. Il n'y aura pas de problème. Et là, en ce moment, c'est un truc. On voit vraiment qu'il y a une volonté de couper, de créer un gros gap, une grosse dissension entre le monde syndical et puis le reste de la collectivité. Et que ça ne marche pas, c'est ça qui est très bien. Et c'est marrant parce que dans tous les réseaux, les milieux, les mouvements sociaux, il y a des velléités de dire on n'attend pas le 1er septembre pour se réunir, il faut absolument qu'on se voit à la dernière semaine d'août. Déjà, ça commence comme ça. Cet été, il va se passer quand même pas mal de choses. On a Notre-Dame-des-Landes, là où il va y avoir quand même, ça va être un des... En plus, le débat principal à Notre-Dame-des-Landes, c'est la démocratie. Donc là, on va être en plein dedans. L'affaire de la démocratie, en plus, qui est géniale sur la loi de travail. On a des camarades du GERS là qui ont remonté un truc. Ils ont juste regardé les conclusions du congrès du PS qui a eu lieu il y a un an, pile, le 7 juin 2015. Et la motion A qui a remporté 60% de suffrage, il y a écrit noir sur blanc, il faut renforcer le droit du travail, il est hors de question d'inverser la hiérarchie des normes. Et les copains, ils ont pointé tous les gens qui ont voté pour ça, et il y a tous les députés PS qui ont voté justement pour ça. Donc on est vraiment dans une espèce de gestion schizophrénique complètement de la situation, et où automatiquement, ça peut être du bon beurre pour des partis extrêmes, genre le FN qui en fait son beurre. Donc vous voyez bien, ils font rien, c'est l'Europe qui guide, etc. Donc il y a vraiment un truc très... Après, je suis pas persuadé que tous les gens, tout ce qui s'est passé, le mouvement, les 100 jours qui viennent de se passer, moi j'imaginais pas du tout qu'il y aurait 100 jours comme ça, je suis pas du tout persuadé que ça soit automatiquement du vote Front National ou truc comme ça. Parce qu'il y a plein de gens qui ont appris, il y a plein de gens sur les affaires de Nuit Debout, on s'est vu plein de fois là-dessus. Il y a des gens qui étaient à l'école, là, qui étaient à l'université populaire et qui ont vraiment appris, qui ont découvert ce que c'était. Et que ça s'arrête pas qu'aux mots et aux attitudes et au positionnement des interviews. Et ça, c'est vraiment un truc super. Et je crois que ça, c'est 100 jours. Quoi qu'il arrive, hein, quelle que soit l'issue, la loi passe pas, machin et tout, il y a un truc qui est vraiment différent. Ça sera pas comme avant. Il s'est vraiment passé un truc. Et ça, c'est bien. Ah, attends, j'avance.
C'est parti, il faut avancer le camion.
Comme un bruit qui court. Sur France Inter.
Alors, même les républicains espagnols se sont mobilisés pour venir marcher aujourd'hui dans la rue.
Ouais, comme à chaque manifestation, hein, on est là, il n'y a pas de problème. Si, c'est pour aider.
Alors, vous avez le drapeau donc violet, jaune, rouge hein, de la République espagnole. C'était important pour vous aujourd'hui d'être là. Bon, vous êtes aussi SNU, c'est ça hein,
SNU du Pôle emploi, ouais, effectivement. On est venu avec quelques camarades du Pôle emploi. Mais ce drapeau-là, c'est un message personnel pour Manuel Valls, pour lui rappeler ses origines et lui dire... que le peuple a droit à toutes les libertés et que la liberté de manifester est inscrite dans la Constitution française et que je ne vois pas pourquoi on devrait manifester dans une sorte de cirque romain improvisé entre des grilles de CRS, dans une espèce de manif statique, non statique, tournante, je ne sais quoi. Enfin bref, on a un peu l'impression que les CRS vont finir par nous jeter des cacahuètes ou que la prochaine fois... on va manifester, ma foi, dans les égouts entre le 12 et le 13 de la rue du Faubourg Saint-Honoré et à 1h du matin pour déranger personne, quoi.
On y retourne à cette manif, d'abord interdite, puis autorisée, mais de façon bien particulière. C'était donc jeudi dernier, le 23 juin, et c'était la 10e journée de mobilisation syndicale organisée depuis le 9 mars pour dénoncer la loi travail. Départ de la Bastille et retour au point de départ, au pied de la colonne de Juillet, certes, mais ça a quand même laissé un petit goût amer aux militants, parce que la lutte sociale, ça ne se passe pas dans un tourniquet pour hamster.
Comme un bruit qui court.
Sur France Inter.
Hey les gars, vous faites quoi ?
Et ça s'étoffe petit à petit, les gens arrivent pour manifester, on réussit à passer les différents filtrages de police, enfin certains ont réussi à les passer, d'autres n'ont pas pu, se sont fait arrêter, refouler. Mais voilà, ça commence à prendre un petit peu corps, cette manifestation, cette marche autour du bassin de l'Arsenal pour cette manifestation contre la loi El Khomri du 23 juin. 2016. Loïc Canitro, vous avez pu venir et accéder à cette manifestation entre guillemets hein, du 23 juin. Mais ça n'a pas été pareil pour vos camarades donc, de Jolimôme, hein, c'est ça?
Et oui, il y a Michel, notre metteur en scène, Flo, notre contrebassiste, qui ont été emmenés au commissariat au moment de la fouille, parce qu'il y a eu plusieurs barrages pour fouiller les gens en arrivant sur la place. Et alors on ne sait pas ce qu'ils leur ont reproché, probablement du sérum physiologique, peut-être des lunettes, je ne sais pas, puisque je n'ai pas pu les avoir en direct pour le moment. Mais évidemment, ce ne sont pas des gens qui viennent armés en manifestation. Donc on sait qu'il y a des dizaines et des dizaines de personnes arrêtées de manière complètement arbitraire aux abords de la manifestation. Toute l'intimidation qui a eu lieu cette semaine en disant que les manifestations seraient interdites, que même si elles existaient, elles seraient dangereuses, elles seraient confinées par la police. Ils ont préalablement légitimé la nasse dans laquelle ils nous enferment tout au long de la manifestation. Et pour nous dire, bon, finalement, vous pouvez faire l'aller-retour autour du bassin, ce qui est quand même complètement ridicule, c'est incroyable. Et donc là, ça se vérifie aujourd'hui par une intimidation, un harcèlement. Moi, j'ai une de mes camarades qui n'a pas pu rentrer dans la manifestation parce qu'elle avait un sweatshirt à capuche de Jolimôme. Et il fallait qu'elle laisse son sweatshirt à capuche à la police si elle voulait pouvoir accéder à la manifestation.
Alors, au-delà de l'intimidation, on peut parler aussi de criminalisation. Vous avez été arrêté, vous avez été mis en examen, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé au MEDEF, là? C'était il y a 15 jours.
C'est ça, il y a deux semaines, avec des intermittents, on est allé protester contre la politique du MEDEF, en particulier sur la question des intermittents du spectacle, mais aussi derrière la loi El Khomri, derrière le CICE, etc. Hein. Et au lieu de trouver des gens susceptibles d'écouter ou tout au moins d'entendre qu'il y avait une protestation contre leur politique, eh bien, il y a eu une interpellation. C'est moi qui ai été emmené en garde à vue parce que, soi-disant, on m'accuse d'avoir mis un coup au directeur de la sécurité. Bon, évidemment, tout le monde sur place témoigne que c'est faux, mais en tout cas, j'ai quand même fait 48 heures de garde à vue et je me retrouve avec une convocation au tribunal pour des faits complètement imaginaires, pour un acte très politique que le MEDEF voudrait transformer en faits divers. Ils ont tout essayé. Et là, on entend qu'il y a encore une dynamique, il y a encore des gens qui disent non, ce projet de loi, il est trop grave pour qu'on le laisse passer. Donc on reste mobilisé malgré l'intimidation, malgré des agressions médiatiques très très fortes. Et voilà, ça fait plaisir de voir qu'on ne se laisse pas intimider.
Alors il y a une petite délégation du syndicat de la magistrature avec des drapeaux, avec un point levé qui tient la balance de la justice. Et donc qui manifeste aujourd'hui, qui marche dans le cortège contre la loi travail.
Je m'appelle Anaïs Vin, je suis secrétaire nationale au syndicat de la magistrature.
C'est important aujourd'hui, disons, au-delà de la loi travail, de venir marcher ici, justement pour défendre le droit de manifester.
Mais tout à fait, on a dû réagir en quelques heures. La manif, elle a été interdite dans un premier temps. Et ensuite, on nous a autorisé à faire un petit tour de bassin, un petit tour de manège. Nous, on estime que la liberté de manifester, elle ne se résume pas à ça. L'élaboration de la loi travail, elle se fait dans un contexte qui dénie quand même toute démocratie, sans consultation, avec l'article 49.3. Et aujourd'hui, on n'a même plus le droit de venir défendre dans la rue nos idées, faire valoir un point de vue différent.
Et ça tient la route juridiquement d'interdire de manifester ou c'est vraiment encore l'état d'urgence qui fait que c'est possible?
Alors là, on n'est pas dans le cadre d'une interdiction état d'urgence, donc on n'est pas dans la situation des interdictions au moment de la COP21, au début de l'état d'urgence. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le fait depuis des mois d'être en état d'urgence a habitué un peu tout le monde à ce qu'il se passe des choses extrêmement dérogatoires, extrêmement anormales par rapport aux droits des citoyens par ailleurs. Et ça habitue les gens à ce qu'il y ait des policiers partout, des contrôles de sacs, des contrôles d'identité, etc. Donc aujourd'hui, l'interdiction de la manifestation pour la loi travail, même si elle est déconnectée juridiquement de l'état d'urgence, elle est dans la continuité de toute cette tentative de museler un petit peu le débat démocratique, de faire croire que c'est dangereux de discuter, d'amener un point de vue différent, que le rapport de force avec le gouvernement pour faire bouger les lignes dans une loi, ce serait quelque chose de criminel. C'est un droit de pouvoir contester les lois qui sont prises et de pouvoir participer à l'élaboration législative. Et on est là pour défendre ça.
La CGT 93 Seine-Saint-Denis dans la manif du 23 juin.
Oui, bonjour.
Au niveau du pont Morland, on a fait la moitié du parcours autorisé, donc Il y a un barrage assez imposant sur le quai Morlan avec un canon à eau qui trône au milieu pour dissuader des manifestants qui voudraient continuer vers Bercy, vers le ministère de l'économie par exemple. Ça pourrait être un lieu, une destination qui aurait été appréciée par quelques manifestants contre la loi travail. Mais du coup, effectivement, tout le monde tourne sagement et reprend la direction de la place de la Bastille par le boulevard Morlan. Mais ça risque effectivement de ne pas contenter tout le monde. Alors l'Opéra Bastille, toutes les marches sont investies par des manifestants pour cette journée du 23 juin. Et il faut passer sous la banderole, qu'elle soit nationaliste, républicaine ou socialiste, virons la droite. Et là, on va retrouver Sophie Vaniche.
Sophie Vaniche, historienne de la période révolutionnaire française, dans un rapport passé-présent, directrice d'un groupe de recherche qui s'intitule « Transformation radicale des mondes contemporains », dans un institut qui s'appelle l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain, CNRS, École des hautes études.
Alors Sophie Vaniche, on est sur les marches de l'Opéra Bastille, en face de la colonne de Juillet. Et là, la manifestation syndicale, c'est devenu de l'opéra bouffe, non ?
Ça serait bien si c'était de l'opéra bouffe, parce que l'opéra bouffe, je vais faire un peu d'histoire, c'est le moment où on remet le peuple en scène pour lui redonner une légitimité, alors qu'on ne présentait sur la scène que des allégories. Et donc c'est une manière de reconnaître la place du peuple dans la représentation. Donc là, on est le contraire de l'opéra bouffe. On est dans une situation où le parcours qui a été proposé in fine, après avoir osé aller à l'encontre d'un droit constitutionnel fondamental sur les libertés fondamentales en démocratie, le parcours qui a été proposé, c'est un parcours de nasse. C'est-à-dire, c'est un parcours bloqué où les gens ne peuvent que tourner en rond et s'installer sur une place qui n'est pas une place comme dans l'occupation des places de 2010-2011, où on la reconquiert pour pouvoir reconquérir l'espace public, mais c'est une place qui ressemble plutôt à un lieu fermé, à une sorte de camp, ou si on veut être encore plus radical dans la comparaison, à une sorte de stade. En tout cas, c'est un espace clos. Et cet espace clos, c'est une manière de finalement de mépriser la valeur justement populaire en tant que c'est la réserve démocratique qui doit se trouver là. C'est cette réserve démocratique qui aujourd'hui est traitée comme une bande de criminels.
Et le fait d'être confiné là autour de la colonne de Juillet, qui commémore justement l'esprit de Juillet, les journées de juillet 1830, c'est quand même assez symbolique aussi. C'est-à-dire que là, le peuple, il ferme sa gueule aujourd'hui, c'est ça ?
On ne peut pas dire que ceux qui sont ici ferment leur gueule, puisque ce sont ceux qui l'ouvrent. Mais le fait que les gens soient autour d'un symbole, mais que ce symbole soit pour partie désactivé, puisqu'il y a quelque chose qui est assez récent, hein, c'est 1935, la possibilité pour l'État de contrôler les lieux de manifestation. Quand on est dans les années 1830, on est dans une situation où on ne prévient pas qu'on va faire une manifestation. On fait une manifestation à l'occasion de l'enterrement d'un général républicain. On fait des manifestations qui sont des manifestations qu'on appellerait aujourd'hui sauvages. Donc ce contrôle très important, il est assez récent. Et donc dans une certaine mesure, l'ange de la liberté ne veille pas sur ce contrôle récent et aujourd'hui utilisé d'une manière extrême, dans une logique de verticalité policière extrême, qui ne correspond pas à l'une des traditions républicaines démocratiques de ce pays.
Alors c'est quoi la stratégie ? C'est de stigmatiser les syndicats, notamment la CGT ? C'est de criminaliser le mouvement social ?
Je crois que ça va au-delà de la CGT et du mouvement social dans le rapport à la loi El Khomri, parce que tout le monde sait que le point de départ très important, c'est effectivement la pétition de Caroline de Haas sur la loi El Khomri, mais qui vient rencontrer toute une série de mouvements contre l'état d'urgence, de mouvements qui réclament une nouvelle constitution, de mouvements qui se sont élaborés ou plutôt visibilisés les uns les autres dans le contexte de Nuit debout. Et donc, en fait, c'est un changement de conception de la société qui est demandé contre ceux qui, au nom des nouvelles règles néolibérales instituées en Europe, parce que l'Europe n'a pas toujours été néolibérale, et de plus en plus néolibérale, cassent la société. Vous vous souvenez de Margaret Thatcher disant « la société, ça n'existe pas ». Eh bien, on est dans une logique où la société, ça n'existe pas. Et donc, il y a quelque chose qui est effectivement disqualifié. C'est la possibilité pour une société de se donner ses propres règles et de les réguler par des mouvements d'opinion qui existent par une presse libre. Elle n'est visiblement pas complètement libre aujourd'hui. On est quand même un peu étonné parfois des choses qu'on peut lire dans la presse nationale. Et qui se donne les moyens par des manifestations, c'est-à-dire la présence dans l'espace public dans un mouvement, et puis par la possibilité d'avoir des organisations sociales instituées qui donnent valeur à ce qu'on appelle le contrôle démocratique. Aujourd'hui, on sait que ce contrôle démocratique est quelque chose qui s'apparente plus à l'opérette qu'à l'opéra bouffe.
Gérard Filoche, ça devient difficile hein, de contester la loi travail notamment, mais aussi l'ordre établi et les choses qu'on trouve pas justes.
Ah non, je trouve pas. C'est la 10e manifestation, vous vous rendez compte? Et ça tient toujours. Ils devraient comprendre quand même là-haut. Non mais faut arrêter, parce que je ne sais même pas comment un gouvernement de gauche peut avoir envisagé d'interdire une manifestation. Je ne sais pas. Je suis en pleine interrogation, j'entends François Hollande qui dit « on va aller jusqu'au bout », mais jusqu'au bout de quoi? Plus personne n'en veut de sa loi, plus personne. Ça ne s'arrêtera pas. Il espère quoi? Faire un coup d'État avec un 49-3 sans vote parlementaire contre tout le monde à la fin du mois de juillet? Mais enfin, s'il fait ça, ça sera la honte généralisée pour tout le monde. Il devrait entendre les suggestions qui ont été faites. Repousser ça à la rentrée parlementaire, par exemple. Tout le monde arrête, cool, et puis on discute et on va sur le fond. Bon, ce qu'on n'a encore même pas fait, hein, parce que personne ne discute en détail des 52 articles. Moi, je suis prêt à discuter de 52 articles avec qui veut, un par un, pour expliquer en quoi ils sont nocifs et ce qu'on pourrait faire à la place. Mais pas cette loi pour le MEDEF, pour l'Union Européenne, pour casser nos droits et s'entendre droit du travail. Non, faut arrêter. Mais de toute façon, s'il n'arrête pas, nous, on n'arrêtera pas. Ce mouvement-là est inarrêtable. Ces forces sociales qui sont en mouvement, notre pays n'existerait pas sans elles. Depuis 200 ans, ce sont ce genre de forces qui ont fait avancer la France. Et ceux qui le font reculer, ils perdent toujours.
La fanfare invisible.
Allez, viens, mon grand. Hashtag comme un bruit. Sur France Inter.
Je m'appelle Leïla, j'ai 33 ans et dernièrement j'étais pas mal occupée depuis 3 mois avec le mouvement Nuit Debout.
Leïla Chaïbi, on est donc devant la colonne de juillet, hein, c'est la fin de cette manifestation. Une manifestation un peu particulière quand même.
Ouais, et ben là en fait moi j'ai fait la manif et j'avais un peu l'impression d'être un hamster dans le tourniquet là, dans une cage. Et d'ailleurs au point que... J'hésitais à faire un deuxième tour, quoi, mais c'est assez bizarre. Ouais, comme, donc c'est autorisé, mais en même temps, on arrive. Je suis descendue, moi, au métro Saint-Paul. Et, deux fois, deux barrages de flics où on te demande d'ouvrir ton sac. On te demande ce qu'il y a dedans. Moi, mon petit sac à main, enfin voilà, on le fouille quand même. On a l'impression d'être des délinquants, quoi. Alors que je veux dire, maintenant, la manifestation, elle a été déclarée, elle a été interdite. Puis après, finalement, réduite à un parcours d'un kilomètre 6. Ouais, on a l'impression que ces derniers temps, il y a de plus en plus une criminalisation de la contestation. Et ça, on l'avait vu aussi pour Nuit Debout. Hein. Enfin, moi, je faisais partie des déclarants des rassemblements Nuit Debout. Tous les jours, on posait à la préfecture une déclaration. On était une dizaine de signataires.
individuelles et puis avec des associations aussi. Et la préfecture a décidé de poser des arrêtés pour limiter le temps de manif et puis fouiller les sacs. Alors vous imaginez la tête des voisins de voir trois policiers débarquer chez moi chaque jour. Vous imaginez qu'on est 10 déclarants, donc l'argent que ça coûte de faire se déplacer chaque jour chez chacun des déclarants, en fonction de son commissariat d'arrondissement, des policiers qui débarquent chez vous. Il y a une fois, 23h50, pour m'apporter l'arrêté du jour, un papier qu'on peut trouver sur Internet, un papier qui est le même chaque jour, il n'y a que la date qui change, pour un rassemblement qui est autorisé, qu'on a fait dans les règles, et puis dans un pays où manifester, c'est un droit, quoi.
Alors, Nuit Debout, en quoi ça se transforme? On peut dire que le rapprochement avec le mouvement syndical est en train de se faire. Ouais. Justement, ça a été difficile au départ, au sein de Nuit Debout, sur la place de la République, mais c'est en train de se faire aujourd'hui, quelque part, autour de la place de la Bastille.
Non, mais carrément, déjà, en fait, ça me fait un peu halluciner quand on dit Nuit Debout s'essouffle, mais ce qu'il faut penser aussi, c'est que le 31 mars, moi, je faisais partie du groupe qui était à l'initiative de la préparation de la première Nuit Debout du 31 mars, et jamais, 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 on aurait imaginé que ça dure aussi longtemps que ça. Enfin, quand on a vu tout le monde débarquer le premier soir du 31 mars, on s'est dit « Ah ben c'est super, malgré la météo pourrie, il y a plein de monde, ben tiens, on va refaire ça la semaine prochaine, ou on va refaire ça dans un mois, quand la météo sera meilleure. » On s'attendait pas à ce que tous les jours depuis, malgré les expulsions, les évacuations tous les matins, 5h30 du mat, il y ait des gens qui reviennent le lendemain, qui réinstallent la tente cantine, la tente logistique, les assemblées avec des centaines de personnes. Donc c'est sûr qu'après, là, ces derniers temps, clairement, il y a vachement moins de monde. Mais le mouvement, il est plus en train de se transformer plutôt que de mourir. Et dès le départ, un des objectifs de Nuit Debout, c'était de faire à la fois la convergence des gens, de faire venir les gens qui n'étaient pas du tout, qui mettaient pas les pieds habituellement dans les manifs, et la convergence des luttes, c'est-à-dire tous les gens qu'on croise d'habitude dans les manifs, mais qu'on se croise à la Bourse du Travail, bah, faire en sorte que... on se réunisse et qu'on lève la tête tous ensemble, qu'on s'unisse, qu'on fasse la convergence des luttes. On a eu du mal au début, hein. Souvent on pouvait penser que le mouvement, en fait, c'était juste une assemblée où on discutait comme ça un peu dans le vide, même si on essayait de faire venir les agriculteurs, les syndicalistes, il y avait une convergence qui se faisait. Mais là, pour le coup, il y a moins de monde à République, mais elle est vraiment en train de se mettre en place. Depuis les blocages qu'il y a eu, à chaque blocage, il y a des gens de Nuit Debout qui participent. Moi, je vois que ce soit sur les fils Telegram, les SMS, les mails, enfin, il y a des réseaux qui sont créés. Et ça, c'est quelque chose qui va peser déjà jusqu'à la fin jusqu'au retrait de la loi travail. Et même si on n'arrive pas à obtenir le retrait de la loi travail, même si c'est l'objectif avant tout, c'est quelque chose qui, pour la suite, c'est que du bon, quoi. C'est à la fois des gens qui se bougeaient pas, qui maintenant se bougent, et des gens qui se croisaient pas, qui se bougeaient, mais chacun de leur côté, et qui maintenant sont ensemble.
C'était une manif particulière donc autour du bassin de l'Arsenal à Paris, et la prochaine mobilisation intersyndicale autour de la loi travail, elle est prévue mardi prochain le 28, mais pour le parcours et les conditions, on en saura plus lundi matin. Et maintenant, un peu d'histoire franco-algérienne avec Guy Ventil.
Comme un bruit qui court
sur France Inter.
Paris, 1827. Les Français s'ennuient. La gloire de l'Empire leur manque. La Révolution menace Charles X.
Mais en 1830, un événement va changer le cours des choses. C'est la prise d'Alger, décidée par Charles X pour contraindre le bey au versement d'une dette impayée.
Autant de bonnes raisons pour monter au printemps de 1830 une expédition énorme.
L'expédition visait surtout à détourner le mécontentement des Français contre sa politique. Mais la résistance d'Abdelkader va entraîner la conquête systématique de l'Algérie. Conduite par le général Bugeaud, elle est achevée en 1847.
Amateurs de la perspective historique et des excuses sociologiques, passez votre chemin. Je vais peut-être vous surprendre, mais pour cette dernière émission de la saison, Comme un bruit qui court a décidé de réclamer plus de reconduites à la frontière. Oui, encore des expulsions. Il faut renvoyer chez eux des Algériens qui n'ont rien à faire chez nous. Ça n'a que trop duré. 190 ans au bas mot que nos histoires sont bel et bien entremêlées des deux côtés de la mer Méditerranée. Mais alors rassurez-vous, nous n'en sommes pas encore à caresser dans le sens du poil les délires remplacistes de certains, mais juste attirer votre attention sur quelques crânes et un casse-tête. nouvelle illustration du casse-tête qu'est notre mémoire coloniale. Redécouvert en 2011 dans les réserves anthropologiques du Musée de l'Homme, les crânes d'une trentaine de combattants algériens décapités pour avoir combattu la colonisation française au milieu du 19e siècle reviennent hanter les mémoires comme un cadavre dans le placard. Comme Sarti Bartman, la Vénus hottentote rendue à l'Afrique du Sud, Attaï au Kanak de Nouvelle-Calédonie, elle raconte des chapitres occultés de notre histoire passée qui n'en finit pas de passer. Parmi les spécimens numérotés et conservés depuis plus d'un siècle, les têtes de chefs connus de la rébellion, des résistants donc, que les signataires d'une pétition lancée par l'écrivain Brahim Senoussi veulent voir retrouver leur nom et quitter ses étagères pour des obsèques et une digne sépulture. Mohamed Mbarek, Chérif Bourbala, Cher Bouziane, Moussa Al-Derkaoui. Une histoire qui n'arrête pas de passer.
Monsieur Senoussi ?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est au troisième étage.
Merci.
Bonjour. Bienvenue.
Merci, vous allez bien ?
Ça va ?
Oui, merci. Bon,
alors, je m'appelle Brahim Senoussi, je suis maître de conférence à l'université de Cergy-Pontoise. Je suis blogueur, je suis chroniqueur dans deux journaux algériens.
Et avec toutes ces activités, vous voilà comme un des instigateurs de cette pétition pour la restitution des restes de combattants algériens qui ont combattu la colonisation française et qui sont aujourd'hui, semble-t-il, dans les armoires des réserves du Musée de l'Homme. Alors comment ça a commencé cette histoire ?
Alors ça a commencé par un historien et anthropologue algérien qui s'appelle Ali Farid Belkadi. Lui a découvert l'existence de ces crânes en 2011. Ces crânes, alors on savait qu'ils venaient d'Algérie, ça c'était public, mais il a appris leur histoire, c'est-à-dire que c'était les crânes de combattants qui étaient tombés pendant la bataille de Zatcha, qui a été une bataille atroce. La bataille des Zatcha dans laquelle ils sont morts s'est passée juste après la reddition de l'émir Abdelkader. Et la France pensait à l'époque que la guerre était terminée, que c'était fini et qu'on allait enfin être tranquille. Et il y a un brasier qui s'est rallumé. Aux Zatcha, c'est une oasis qui se trouve à côté de Biskra, dans l'est algérien, sud-est. Et l'un des protagonistes de cette guerre était le Benalel, qui était le lieutenant de l'émir Abdelkader. L'autre, celui qui menait la bataille, c'est Bouziane. Lui avait décidé de bouter le colonialisme hors d'Algérie.
Et donc les chefs, les différents chefs de cette rébellion ont été soumis.
Alors, ils ont été exécutés, sauf un qui a été jugé puis décapité. Et cette bataille est racontée par le général Herbillon lui-même, qui commandait la colonne française, mais aussi par un historien français qui s'appelait Alfred Nettement. Il avait raconté l'horreur des combats, donc aucun survivant, ni femme, ni enfant, tout le monde a été passé par l'épée. Et des gens ont dénoncé les décapitations, les essorillages, je ne sais pas comment on appelle ça.
Couper les oreilles.
Couper les oreilles, voilà. Il y a deux personnes qui ont survécu, un aveugle et puis un autre.
Il est vrai que nous rapportons un plein baril d'oreilles récoltées paire à paire sur les prisonniers amis ou ennemis. Des cruautés inouïes, des exécutions froidement ordonnées, froidement exécutées à coups de fusil, à coups de sabre, sur des malheureux dont le plus grand crime était quelquefois de nous avoir indiqué des silos vides.
Et donc moi j'ai appris cette histoire à l'époque, et ça m'a obsédé, mais je ne voyais pas très bien quoi faire. Et je me suis constitué un réseau d'amis, et je me suis dit peut-être que ça pourrait me permettre de populariser une pétition, de commencer à la populariser en tout cas. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et la pétition est partie en flèche pour arriver aujourd'hui à 4000 personnes. Et des journaux algériens s'en sont emparés aussi. C'est monté, au point que les autorités algériennes ont cette fois réagi. Alors, c'est le ministre des anciens moujahidines, traduction anciens combattants, qui a réagi en disant qu'il s'engageait à mener l'affaire à bien et que, quoi qu'il arrive, l'Algérie prendrait en charge le rapatriement de ces crânes pour être enterrés en Algérie. Voilà.
Et alors, on sait comment ces crânes de combattants algériens ont atterri dans les musées français ?
Alors, ils n'ont pas atterri directement dans les musées français. Quand ils ont été pris, c'était des trophées. Mais il y avait des collectionneurs, il y avait des médecins en particulier, qui gravitaient autour de ces événements et qui collectionnaient des restes. Quand la mode est passée des trophées de guerre, 20 ou 30 ans après, ces collections ont été proposées dans les musées, particulièrement au Musée de l'Homme. Le prétexte qui a été avancé, c'est l'étude scientifique.
C'est intéressant cette histoire parce que l'histoire de la conquête de l'Algérie est complètement en dehors des radars de l'opinion publique, de la conscience collective ici en France. Les 10 dernières années ont été le moment d'un réveil et d'une réouverture de toute cette partie occultée qu'était la guerre d'Algérie et tout le refoulement de cette histoire franco-algérienne. Peut-être qu'il serait temps d'aller voir comment elle a commencé, comment elle a débuté il y a de ça maintenant, 180 ans maintenant.
1830, oui. Ce qui s'est passé là-bas n'est pas glorieux. Et je pense que pour des raisons qui ne sont pas les mêmes, le pouvoir algérien et la France n'ont pas envie d'ouvrir cette page sombre de l'histoire. Pour les Français, c'est normal parce que ça rappelle des souvenirs douloureux, ça donne une image de ce que la France coloniale a fait en Algérie et qui est racontée d'ailleurs, ça, il suffit d'aller voir les livres, par le maréchal de Saint-Arnaud dans ses lettres qui sont à la Bibliothèque nationale, que tout le monde peut consulter. Il raconte ses exploits, entre guillemets, sans aucune honte, sans aucune retenue.
Saint-Arnaud, il était commandant et c'était aussi un mari très attentionné. Il écrit à sa femme.
Nous sommes dans le centre des montagnes, entre Miliana et Cherchel. Le pays des Beni Menasser est superbe et l'un des plus riches que j'ai vu en Afrique. Les villages et les habitants sont très rapprochés. Nous avons tout brûlé, tout détruit. Nous brûlons tous les douars, tous les villages, toutes les cahutes. Le même jour, je poussais une reconnaissance sur les grottes, ou plutôt les cavernes. Nous sommes reçus à coups de fusil. Alors je fais hermétiquement boucher toutes les issues et je fais un vaste cimetière. La terre couvrira à jamais les cadavres de ces fanatiques. Un rapport confidentiel a tout dit au maréchal Bugeaud.
Voilà, c'est ce type d'atrocité. On a du mal à le croire, sans doute. Je pense que beaucoup de jeunes Français ici, s'ils lisaient ça, ils seraient complètement médusés. Et du côté algérien, ils veulent aussi maintenir le silence parce que tout le monde, aussi bien ceux qui nous gouvernent que ceux qui gravitent autour de ceux qui nous gouvernent, ne sont pas clairs vis-à-vis de cette histoire et ils préfèrent maintenir, comme on dit en arabe, il faut garder le couvercle sur le puits.
Pourquoi c'est important de exhumer cette histoire-là, d'après vous ?
On parlait tout à l'heure de l'impossibilité de parler de l'histoire aussi bien ici qu'en Algérie. Eh bien, c'est une manière de la faire ressortir du néant. Moi, bien sûr, donner une sépulture digne à ces résistants m'intéresse au plus haut point, ça me concerne en tout cas. Je peux me permettre un détail personnel. Je suis fils de shahid, vous savez, fils de martyr. Mon père est mort pendant la guerre de libération, mais on n'a jamais retrouvé son corps. Et le fait que mon père n'ait pas eu de sépulture m'a donné sans doute une sensibilité particulière au fait que ces gens dont on a au moins les restes n'aient pas de sépulture est un pur scandale. Et je crois que c'est au-delà des familles qu'il faut rendre à un pays ce qui fait son âme. L'âme d'un pays ne peut pas se passer de la restitution de mémoire. C'est quand même des résistants, on les rapatrie, on les enterre dignement. Et j'espère que le succès de cette pétition est initié par des citoyens aura un effet sur cela aussi. Mais ça, c'est plus dur. Et ça sera plus compliqué. Voilà.
À Alger, M. le ministre Lejeune, gouverneur général de l'Algérie, a célébré le centenaire de la mort du maréchal Bugeaud en allant déposer une gerbe au pied du monument perpétuant la mémoire du grand soldat qui sut être aussi, avec un bonheur égal, un grand administrateur.
Retour en 2016. Nous voici à Paris, au Trocadéro, devant l'entrée du Musée de l'Homme. Et c'est ici que repose une partie de cette histoire et une partie de cette mémoire.
Bonjour. Monsieur, monsieur. En bas. Merci.
Ah oui, c'est bien. Ouais.
Mes malheurs, je ne les dirai pas. Il y a des aveux inavouables à confier au vent de sable, à confier au vent de sable. À la forêt, à la rivière, je dédie nos insurrections et je maudis vos meurtrières prières et vos odeurs de couvent, et vos odeurs de couvent.
Voilà, dans les sous-sols interminables du musée de l'Homme. Je vois des couloirs de lino sur des mètres et des mètres. Et à droite et à gauche, des portes. Puis là, une vieille étagère en bois qui dit « Entrepôt ». Salle 001 à 0011. Bonjour,
bonjour.
Guy Vanctil, France Inter.
Michel Guiraud, je suis le directeur des collections du Muséum National d'Histoire Naturelle.
Et là, on est accueilli par un squelette qui est écrit mérovingien sur le fémur.
D'une sépulture mérovingienne. C'est, on collecte depuis 350 ans. Si on prend les collections du muséum, on est à près de 67 millions de spécimens qui sont dans les réserves du muséum.
Ça va de la poterie aux morceaux d'os
Les insectes, les herbiers, les roches, enfin tout.
Et c'est justement dans le cadre de la conquête de l'Algérie par la France que ces crânes de combattants algériens, de résistants algériens, on peut le dire, sont retrouvés ici sur les étagères. C'était des prises de guerre, quoi.
Non, c'est pas des prises de guerre. C'est pour ça qu'il faut... Je veux dire, la notion de trophée, ce ne sont pas 36 crânes de résistants, parce que dedans, quand on regarde les
catalogues... Ils sont là, on peut les voir d'ailleurs ou pas?
Ils sont dans une autre pièce là-bas, parce qu'en fait, oui, les gens nommés, on les a...
Ah, oui.
Parce que, justement, pour éviter la confusion, et que, justement, face à ça, on les repère et on les met à part.
On peut le voir.
Voilà. Vous êtes énormément mis à contribution, alors.
Ah, là,
ça n'arrête pas.
Oui, avec cette histoire de pétition et tout ça.
Bon, c'est pas plus mal, non?
Oui, mais enfin, vous dossier comme ça, c'est toujours la politique domine.
Ah. On est où là? Ah, c'est très impressionnant, encore une porte.
Merci.
Et là, c'est que des êtres humains, ça?
C'est que des êtres humains. Ici, en fait, ici, ce sont les collections d'anthropologie. Vous avez ici...
C'est des étagères entières.
La collection des 18 000 crânes.
18 000 crânes?
18 000 crânes, oui. Donc, ils sont conditionnés dans ces boîtes pour assurer leur préservation sur le long terme.
Alors, qui est le propriétaire de tous ces crânes?
L'État. C'est l'État. Voilà, ce sont des collections patrimoniales qui relèvent donc, du Code du patrimoine et qui sont donc inaliénables et imprescriptibles.
Je vous avoue que c'est assez saisissant de voir sur ces étagères, ces petites boîtes, avec ces orbites et ces sourires édentés qui nous fixent.
Voilà,
et c'est vraiment l'histoire qui nous regarde, là.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui. Tout ça, c'est effectivement, ce sont des individus.
Là, je vois, par exemple, le numéro 19755. Si ça se trouve, c'est monsieur Cheikh Bouziane ou Cheikh Moussa ou Cheikh Lassène qui ont combattu les horreurs perpétrées par l'armée française.
Alors, tout à fait. Alors, s'il est indiqué comme ça dans les inventaires, on sait que c'est lui. En règle générale, c'est vraiment des corps non réclamés. Alors, effectivement, on comprend que ces Algériens-là qui ont mené la révolte, je pense que la famille n'a pas osé réclamer les corps. Voilà, donc là, on comprend bien...
Si je comprends bien, si je lis les lycées, qu'ils avaient été empalés
à
l'entrée à Biskra pour que toute la région soit au courant.
Tout à fait, exactement. Oui, ça a été vraiment, c'est la volonté de terroriser. On fait un exemple, mais l'histoire regorge de ces exemples-là. On massacre toute une ville, comme ça... Les autres se taisent et acceptent la colonisation. Voilà, c'est triste à dire, mais...
Le sang de mai, un documentaire de René Vautier.
Alors j'ai pris des documents à la Bibliothèque nationale à Paris, des témoignages des conquérants français. Le ministre de la guerre de l'époque, qui s'appelait Girard, il faut se résigner à refouler au loin, à exterminer même la population indigène. Le ravage, l'incendie, la ruine de l'agriculture sont peut-être les seuls moyens d'établir solidement notre domination. Savary, duc de Rovigo, apportez des têtes, bouchez les conduites d'eau avec la tête du premier bédouin que vous rencontrerez, au nom bien sûr de la civilisation.
À part le côté un peu macabre de tous ces crânes qui nous regardent sur ces étagères et en se disant d'où il vient, qu'est-ce qu'il a vécu, comment il atterrit ici. Vous n'êtes pas du tout, en tant que responsable de ces collections, vous n'êtes pas du tout hostile à l'idée de restituer ces crânes?
On n'est pas hostile du tout, dans la mesure où il s'agit des personnes nommées. Une commission scientifique nationale des collections a été mise en place et donc un des rôles, justement, est de donner un avis sur les demandes de déclassement.
Parce qu'il y en a, ça se multiplie au cours des dernières années.
En tout cas, oui, il y a des demandes.
Il y a eu la Vénus Hottentote qui a été restituée.
Oui, tout à fait. Mais il a fallu une loi, justement.
Il y a eu Attaï.
Il y a eu Attaï.
Avec les Kanaks.
Et pour les Maoris, c'est pareil. Donc, il a fallu une loi. Donc, en fait, cette commission a été créée pour donner un avis sur le déclassement. Donc là, on veut bien examiner. Ceci dit, a priori, on n'a pas les éléments pour la saisir, cette commission. Après, voilà.
Après, c'est des dossiers qui peuvent devenir politiques.
Après, ce sont des dossiers qui peuvent devenir
politiques. Comme ça a été le cas pour la Vénus Hottentote.
Pour Attaï, aujourd'hui.
Mais, d'ailleurs, je crois que les autorités. Enfin, il y a un ministre algérien qui a manifesté l'intérêt pour éventuellement donner des suites à cette demande de restitution.
Tout à fait. J'ai dit ça aussi. Après, effectivement, si c'est un geste politique, voilà, je pense que voilà, c'est plutôt politique de faire. Nous, bon, vous comprenez que se plonger vraiment en détail dans l'histoire de ces crânes, c'est quand même pas mal de temps à y consacrer. Voilà. Voilà, mais c'est vrai que ce sont toujours des dossiers qui sont extrêmement compliqués à documenter. Voilà, c'est beaucoup de temps à passer.
On ferme la réserve. Ils retournent à l'obscurité pour un moment sur leurs étagères.
Les crânes, ils sont au musée de l'homme, bien sûr, entreposés dans des cartons et numérotés.
Alors, Paris, les bâtisseurs de mémoire, conseil, communication, histoire, groupe de recherche à chaque.
Bonjour.
Bonjour.
Oui.
Asseyez.
Ah, j'entends.
Voilà.
Bonjour.
Dans le petit salon.
Ouais, on va se mettre là-bas. La signature monte un peu en puissance, mais lentement.
Pascal Blanchard, si je suis venu vous voir, c'est parce que vous êtes, depuis des années, à travailler sur l'histoire coloniale française et européenne, sur l'impensé colonial qu'il véhicule dans notre société encore aujourd'hui. Et si depuis maintenant, pour le cas de l'Algérie, depuis quelques décennies, on a creusé, on a commencé à ouvrir certaines pages occultées de la guerre sans nom, il y a pour le coup un néant complet dans l'imaginaire collectif, dans la représentation collective, sur ce qu'était la partie de la conquête de l'Algérie.
La conquête a été d'une violence absolue, y compris sur les populations civiles. On connaît mal trois choses, en fait, sur l'Algérie. La période d'hyperviolence que l'on peut dater de 1830 à 1846-47. C'est une période de conquête violente parce qu'il y a eu opposition. Des populations à la fois locales, mais aussi de coalitions face aux armées françaises. Quand même, c'est une histoire violente, avérée en plus. On ne peut pas dire que les écrits n'existent pas pour les avérés, puisqu'il y a des témoignages d'époque qui racontent cette violence coloniale. Ça ne s'est pas fait à demi-mot, caché au fin fond d'Algérie. Hein. Les gens qui racontent la violence, comment ça se passait, les enfumades, les massacres.
Enfumades, voilà. C'était dans des grottes murées.
Des grottes murées dans lesquelles populations civiles, hommes, femmes et enfants, étaient rassemblés par les autorités militaires. On les enfermait dans les grottes, on mettait devant d'énormes broussailles qu'on brûlait, la fumée s'engouffrait à l'intérieur des grottes et ils mouraient asphyxiés. Pourquoi ? Parce que c'était plus rapide pour les tuer. Ça nous rappelle des choses. Hein. Directement. Cette violence-là, elle a été extra-européenne avant d'être européenne. C'est tout ça que ça ramène.
Le 100 de mai, René Vautier.
Le colonel François de Montagnac. Selon moi, toutes les populations qui n'acceptent pas nos conditions doivent être rasées. Tout doit être pris, saccagé, sans distinction d'âge et de sexe. L'herbe ne doit plus pousser là où l'armée française a mis le pied.
Pascal Blanchard, le fait que cette pétition ressorte aujourd'hui et un peu plus d'écho, parce que ça fait depuis 2011, si j'ai bien compris, que ces têtes ont été identifiées comme telles, ça raconte quelque chose aussi sur notre époque.
Il y a des éléments d'ordre symbolique autour de cette histoire. Ceux de la conquête, par définition, ou ceux des répressions au XIXe siècle, renvoient à une hyperviolence dont la symbolique des têtes décapitées conservées dans nos musées est un reflet, je dirais, absolument correct. Alors, il ne faudrait pas faire de tropisme en pensant d'abord que la France est le seul pays au monde à avoir pratiqué ce type de répression extrêmement brutale, d'avoir eu la manie de collectionner nos ennemis dans nos musées. Les Allemands étaient très très bons avec les héros, hein, extrêmement haut. Les Anglais n'ont pas du tout été non plus tranquilles là-dessus, les Américains également, font toujours que les Américains ont un empire colonial, mais les Français ont eu ce particularisme de généraliser un peu la chose, c'est-à-dire que nous avons au Musée de l'Homme, à côté des têtes d'Algériens, des têtes de Kanak, on le sait maintenant, et pour Ataï, cette prise de conscience qu'il y avait pour la Nouvelle-Calédonie, le Premier ministre de l'époque, M. Hérault, a ramené la tête d'Ataï en Nouvelle-Calédonie, sur sa terre natale, parce que là aussi, on avait le même symbole qu'avec les Algériens, c'était, dans le langage de l'époque, un rebelle, chef d'une rébellion, décapité, dont la tête avait été ramenée en France et était devenue un objet de science. C'est exactement la même histoire que pour les Algériens. Le problème, c'est que là, ce n'est pas des gens qui ont donné leur corps à la science ou à la France. Là, on a affaire à des gens qui n'ont pas choisi d'être sur les étagères, qui se sont retrouvés là par les hasards de l'histoire coloniale, mais aussi par l'histoire violente coloniale, et qui sont doublement humiliés parce qu'il y a quelque chose derrière qui est de l'ordre de la symbolique même après la mort. Vous humiliez l'autre dans le combat, vous humiliez l'autre en le colonisant, mais vous l'humiliez aussi à travers le corps de ses chefs que vous exhibez comme des objets de science. Et c'est là qu'on comprend à travers ces têtes-là que cette histoire d'une ultra-violence, quelque part, bah oui, elle est symbolique. C'est-à-dire qu'elle est symbolique parce que vous n'avez pas de tête de combattants prussiens dans les musées français. Et il n'y a pas de tête de soldats français dans les musées allemands, liés à la Première Guerre mondiale. Cette différence-là, qui peut paraître aujourd'hui, on va dire, épiphénoménale et débat d'intello, elle n'est pas un débat d'intello. Je le dis bien, imaginons la tête de Le Drian s'il y avait des généraux français décapités dans un musée à Dakar, étudiés par les anthropologues sénégalais. Il dit quoi, Le Drian? Il dit « rendez-moi les têtes » Ou il dit « oui, non, écoutez, c'est normal, c'est les conséquences de l'histoire, les scories de notre passé commun. » Mais vous croyez qu'il dirait ça? Mais il demanderait la réintégration dans l'armée française dans un cimetière militaire de restes de combattants français, comme demande légitimement une partie seulement des autorités algériennes.
Le sang de mai, documentaire de René Vautier.
Ordre du maréchal Bugeaud. Si ces gredins se retirent dans leur caverne, fumez-les à outrance comme des renards. On a compté 760 cadavres. J'ai donc fait ce film avec les citations et des dessins et gravures. La Ligue de l'enseignement l'a refusé avec cette appréciation. Quoique très correctement réalisé et basé sur des documents indiscutables, ce film va à l'encontre de toutes les idées qui servent de base à l'enseignement de la pénétration française en Afrique du Nord, ce qui rend sa diffusion impossible. C'était reconnaître que l'enseignement n'avait pas pour but l'éducation, c'est-à-dire l'ouverture vers la réalité, mais l'endoctrinement au service d'une idée politique, ici le colonialisme.
Mais si on l'analyse du pourquoi maintenant des gens demandent et pourquoi des gens réclament, c'est parce qu'ils ont pris la connaissance de ce qui existait, la connaissance de cette histoire, la connaissance de ce passé, que toutes les tromperies, toutes les manipulations, ben, ils les ont dépassées parce qu'ils ont acquis un savoir, puis que maintenant ils ont le droit à la parole. Et de plus en plus, vous avez des populations, sur la terre entière, au Canada, aux États-Unis, au Brésil, au Chili, en Afrique du Sud, au Botswana, au Sénégal, qui vont commencer à se poser la question des traces de leurs aînés. C'est-à-dire qu'on sait que le corps est là, il n'a pas de funérailles. Alors, il n'est plus exhibé aux yeux du public. Il n'est même plus un objet de science. Hein. Je vais vous dire un truc. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas des chercheurs qui ont travaillé sur les têtes de décapités algériens. Mais symboliquement, il ne permet pas de passer à autre chose.
Ça reste.
Parce que ça montre sur la quelle manière on fait ce rapport entre la nation, la morale, le vivre ensemble, le rapport à l'histoire, la manière dont on est capable de faire ce lien entre le passé et le présent en montrant qu'on a une forme de cohérence sur le discours humaniste qu'on a changé, qu'on prend conscience que cette violence-là, bah, on n'est plus capable de l'éteindre comme hier et de se taire. Et qu'on est capable de regarder ça en face. Voilà, donc on est dans ces moments charnières, on le voit bien. Ça vient du monde des chercheurs, du monde des citoyens qui signent cette pétition. Alors, certes, les 4000 signatures ne vont certainement pas être d'un poids suffisamment monolithe pour arriver à s'imposer aux politiques. Mais en termes de symbolique, cette histoire, elle touche notre présent. Et elle irrite, je pense, les consciences. Je pense que le musée de l'homme, là-dessus, il ne mesure pas le poids symbolique pour ce musée qui vient de réouvrir, d'avoir à gérer une telle affaire. Non. Le musée de l'homme qui est censé amener, en termes de pédagogie et de discours, un regard sur l'humanité d'aujourd'hui, qui est censé nous éclairer sur les enjeux, sur notre environnement humain et sur les hommes qui peuplent la Terre. Blablabla. Et ce même musée de l'homme porte en son sein un enfant terrible de l'histoire coloniale. Donc il doit être exemplaire dans la manière dont il gère l'affaire. Il n'est pas en train de dire « Ah non, mais nous, c'est pas nous, hein, c'est l'autorité c'est politique, la tutelle. C'est la tutelle. » Oui, mais coco, ton bureau est sur les têtes décapitées. Donc il y a quelque chose qui se renvoie au questionnement même que tu devrais avoir sur la société française. Parce que c'est la première question qu'on peut se poser quand on veut déconstruire le racisme, c'est qu'est-ce qu'on fait des restes de cette histoire? Parce que c'est ça la question du présent. On a bien compris ce qu'a produit le racisme. Il y a que les imbéciles qui n'ont pas compris. On voit bien ce que le racisme pourrait continuer à produire. Mais si on n'est déjà pas capable de gérer les scories du passé, comment on veut anticiper le futur?
Merci beaucoup, Pascal Blanchard.
Merci à vous. Merci.
astres du ciel, témoins du désastre. Et les esprits africains observent nos massacres. Les vents s'acharnent à couvrir notre histoire de poussière, de voile, de viol, de mort et d'arbitraire. Les ombres du passé ne veulent pas disparaître. Une Algérie se meurt dans une autre en train de naître. Dans ma nuit je prie, j'appelle les esprits. Un écrit résonne autour de moi, tout est détruit. Waïe yawa, waïe yawa.
Vous pouvez retrouver la pétition sur change.org pour le retour de ces restes en Algérie. Et puis vous aussi vous retrouvez sur le site de l'émission les références de ce documentaire de René Vautier que vous pouvez retrouver sur le site des Mutins de Pangée.
C'était Comme un bruit qui court, dernière émission de la saison, mais nous aurons le plaisir de vous retrouver en septembre et tout au long de l'été sur les réseaux sociaux, hashtag Comme un bruit. Et sur le site de France Inter, vous pourrez écouter et podcaster toutes les émissions qui vous auraient malencontreusement échappé. Pendant l'été, le reportage continue le samedi à 16h avec Anne Pastor qui vous emmènera pour un voyage en terre indigène. Premier épisode donc samedi prochain en Amazonie et en Indonésie. Juste après les infos, ce sera l'Esprit Inter avec Mathias Deguel et nous on se retrouve donc en septembre. D'ici là, bon été à tous.